Deuxième partie, la malédiction. Chapitre 2. An 8 de la grande crise. Flotte trisolarienne à 4,20 années-lumière du système solaire. Ces derniers temps, Taylor était nerveux. Malgré bien des revers, son plan essaim de moustique avait reçu l'aval du CDP. Le projet de développement des chasseurs spatiaux avait été lancé, mais il progressait lentement en raison du balbutiement des technologies liées à ce programme. L'humanité n'en était encore qu'à l'âge de pierre de la navigation spatiale. Elle essayait tant bien que mal de perfectionner ses haches et ses gourdins, les fusées à propulsion chimique. Quant à l'autre volet évoqué par Taylor portant sur l'étude d'Europe, de Cérès et de quelques comètes, il était si extravagant que certains le soupçonnaient de s'en servir uniquement pour brouiller les pistes et ajouter une dose de mystère à un plan jusque-là très transparent. Toutefois, étant donné qu'il était possible de coupler ce programme de recherche avec ceux des plans de défense générale, on avait approuvé sa mise en route. Taylor n'avait donc pas d'autre choix qu'attendre, alors il rentra chez lui, et pour la première fois durant ses 5 années de colmateur, il put mener la vie d'un homme ordinaire. Dans le même temps, les colmateurs commençaient à susciter un intérêt croissant dans la société. Qu'ils le veuillent ou non, ils faisaient maintenant figure de sauveurs aux yeux du public. En conséquence, un phénomène de culte des colmateurs fit son apparition. Malgré les explications répétées du CDP, des mythes prétendant qu'ils étaient détenteurs de super-pouvoirs se répandaient à grande échelle. Plus les mythes se vulgarisaient, plus ce qu'on racontait sur leur compte était d'ailleurs surnaturel. Des films de science-fiction en firent des super-héros, et pour beaucoup de gens, ils représentaient désormais le dernier espoir de sauver le futur de l'humanité. Aussi, les colmateurs bénéficiaient d'un pouvoir politique et d'un soutien populaire tel qu'il leur était commode de mobiliser un plus grand nombre de ressources. Luoji faisait exception. Il restait coupé du monde, vivant en ermite, ne montrant jamais son visage. Personne ne savait où il était ni ce qu'il faisait. Ce jour-là, Taylor eut un visiteur. Comme pour tous les colmateurs, sa demeure était sous haute surveillance et tous ceux qui lui rendaient visite étaient soumis à des contrôles extrêmement stricts. Mais quand il vit l'homme arriver dans le salon, Taylor sut immédiatement que celui-ci était passé sans encombre, parce qu'on pouvait savoir dès le premier regard qu'il n'était une menace pour personne. En ce jour de grande chaleur, il était vêtu d'un costume froissé et d'une cravate du même genre, mais, plus exaspérant encore, il portait sur la tête une sorte de chapeau melon aujourd'hui devenu rare. De toute évidence, il voulait donner à sa visite quelque chose de cérémonieux, mais il n'avait jamais dû assister à une cérémonie officielle avant celle-ci. Sa pâleur et sa maigreur donnaient l'impression qu'il était mal nourri, et ses lunettes semblaient trop lourdes pour son visage émacié. Son cou frêle paraissait avoir du mal à soutenir le poids de sa tête et de son chapeau melon, tandis que son costume paraissait suspendu à un porte-manteau. Avec son regard de politicien, Taylor vit dès le premier coup d'œil qu'il appartenait à la tranche la plus défavorisée de la société, dont la pauvreté n'est pas seulement matérielle, mais plus encore spirituelle, un peu comme les petits fonctionnaires des romans de Gogol qui, en dépit de leur situation médiocre, tremblent pour conserver leur statut et s'adonnent de bonne grâce à des tâches abrutissantes et épuisantes, craignant de se tromper à la moindre décision, de contrarier leur supérieur à la moindre initiative, et osant à peine regarder par-delà les plafonds de verre des couches sociales les plus aisées. C'était le genre d'individu que Taylor détestait par-dessus tout. Ils étaient misérablement sans importance, et quand il pensait parfois que la majorité des habitants de la planète Terre étaient de cette espèce, cela lui laissait un goût amer. L'homme passa très prudemment la porte du salon, mais il ne se hasarda pas à avancer davantage comme s'il craignait que ses souliers ne salissent le tapis. Il ôta son chapeau melon et il regarda humblement son hôte d'un air contrit à travers les verres épais de ses lunettes, puis il se courba plusieurs fois pour lui présenter ses respects. Taylor décida de le renvoyer aussitôt qu'il aurait prononcé sa première phrase. Ce que son visiteur avait à lui dire était peut-être important à ses yeux, mais pour Taylor, ce serait forcément insignifiant. D'une voix fluette, le pauvre homme prononça sa première phrase. Taylor fut comme frappé par la foudre. Il manqua s'évanouir et s'effondrer sur le sol. Chacune des syllabes avait fait l'effet d'un coup de tonnerre. « Colmateur Frédéric Taylor, je suis votre fissureur. »
Qui aurait pu penser que nous nous retrouverions un jour devant une telle carte de bataille ? Soupira Chang Weizi devant une carte du système solaire d'une échelle de 1/10 millième. Celle-ci s'affichait sur un gigantesque écran qui aurait pu être celui d'une salle de cinéma, si ce n'est que l'image projetée ici était d'un monochrome noir à l'exception d'une minuscule tache jaune en son centre, le soleil. Le périmètre couvert par la carte spatiale avait pour bordure la médiane de la ceinture de Kuiper. En mode plein écran, c'était comme si on regardait le système solaire à une distance de 50 unités astronomiques en perpendiculaire au plan de l'écliptique. La carte indiquait avec précision toutes les orbites des planètes et de leurs satellites, ainsi que les ceintures d'astéroïdes connues. Elle pouvait aussi afficher toutes les positions et les mouvements exacts des objets du système solaire pour la période des 1000 ans à venir. Des indications portant sur la position des objets célestes avaient été masquées, et la carte n'affichait à présent que la luminosité réelle des objets. En observant de plus près, on pouvait reconnaître Jupiter, mais uniquement sous la forme d'un point lumineux indistinct. À cette distance, les 7 autres planètes du système étaient invisibles. « En effet, nous faisons face à des bouleversements majeurs », affirma Chang Beiyei. La réunion des experts sur la première version de la carte spatiale militaire venait tout juste de s'achever, et il ne restait plus que lui et l'amiral Chang Weizi dans le bureau du quartier général. « Amiral, je ne sais pas si vous avez remarqué le regard de nos camarades lors de la présentation de la carte », commença Chang Beiyei. « Bien sûr, et je peux les comprendre. Avant cette réunion, ils s'étaient imaginé ce genre de carte qu'on trouve dans les livres de vulgarisation scientifique, avec des planètes en couleur de la taille de boules de billard en rotation autour d'une sphère de feu. C'est en se confrontant à une carte appliquant les vraies échelles qu'on se rend compte de l'étendue de notre système solaire. » Qu'ils viennent de l'armée de l'air ou de l'armée de mer, le lieu le plus distant où leurs appareils peuvent voler ou naviguer n'équivaut même pas à un pixel de cet écran. J'ai l'impression que l'observation du champ de notre future bataille n'a pas inspiré chez nos camarades la moindre confiance, ni la moindre détermination. Nous en revenons au défaitisme. Amiral, je n'ai pas envie de parler maintenant de la réalité du défaitisme. C'est une question qui doit être abordée lors de nos réunions officielles. Ce dont je veux parler... Comment dire ?
Chang Beiyei se mit à rire. Il hésitait, chose rarissime pour lui qui était de coutume si franc et spontané. Chang Weizi détourna son regard de la carte spatiale et adressa un sourire à Chang Beiyei.
« Il semblerait que ce dont tu veux me parler est très peu conventionnel. »
« Oui. »
« Du moins, il n'y a jamais eu de précédent. Je voudrais faire une suggestion. »«
Je t'écoute.
Va droit au but, on ne devrait pas avoir besoin de te forcer. »«
Oui, amiral.
Ces 5 dernières années, aucune avancée significative n'a été réalisée dans les recherches sur le système de défense planétaire et la navigation interstellaire. Les 2 technologies que sont la fusion nucléaire contrôlée et l'ascenseur spatial en sont encore à leur début. » Et elle piétine, sans qu'on y voie un quelconque signe d'espoir. Même les fusées à propulsion chimique traditionnelles que nous essayons d'améliorer rencontrent d'importantes difficultés. Si nous continuons ainsi, même les stratégies militaires de basse technologie risquent de rester à jamais de l'ordre de la science-fiction.
Camarade Beiyei, avant de choisir d'intégrer le bureau de recherche des stratégies de haute technologie, tu avais certainement une connaissance aiguë des règles de la science.
J'en suis naturellement conscient. La recherche scientifique est un processus qui fonctionne par petits bonds. C'est uniquement sur une accumulation quantitative sur le long terme que peut reposer une évaluation qualitative. Les avancées théoriques et technologiques émergent souvent ensemble. Mais, amiral, combien d'entre nous sont conscients de ce problème ? Il est très probable que dans 10, 20 ou 50 ans, voire un siècle entier, les domaines scientifiques et techniques n'aient toujours pas connu d'avancées significatives. Quel niveau aura alors atteint la vague du défaitisme? Dans quelles conditions spirituelles et mentales seront les forces de l'armée spatiale? Amiral, pensez-vous que j'anticipe de façon excessive? Beyei, ce que j'admire le plus chez toi, c'est précisément ta vision à long terme. C'est une chose extrêmement précieuse dans le département politique. Continue, je t'en prie. Tout d'abord, je ne peux parler qu'à partir de mon propre secteur. Si les hypothèses que je viens d'évoquer se réalisent, à quel genre d'obstacles et de pressions se heurteront nos camarades futurs en charge du travail idéologique dans la spatiale? Il y a une question plus grave encore. Combien restera-t-il à ce moment-là de cadres psychologiquement assez solides au sein du département politique? Ajouta Chang Weizi. Pour combattre le défaitisme, il faut avant tout avoir une foi absolument assurée de la victoire. Or, dans le futur que tu viens d'évoquer, ce sera encore beaucoup plus dur que maintenant. C'est précisément ce qui m'inquiète, amiral. Le moment venu, l'énergie qui sera consacrée au travail idéologique de l'armée spatiale sera certainement insuffisante. Ta suggestion? Leur envoyer du renfort. Chang Weizi fixa silencieusement Chang Beiyei quelques secondes, puis il dirigea ses yeux vers le grand écran, déplaça en même temps son curseur et agrandit la zone du soleil jusqu'à ce que les épaulettes des deux militaires reflètent les rayons solaires. Amiral, ce que je veux dire, c'est... Je sais de quoi tu parles, l'interrompit Chang Weizi en levant une main et en repoussant le soleil jusqu'à ce que l'intégralité de l'image repasse dans son mode original. Le bureau fut à nouveau enveloppé par l'obscurité, puis l'amiral agrandit encore une fois le soleil. Il répéta cette action plusieurs fois tout en réfléchissant, puis il finit par lâcher. As-tu pensé au fait que les missions actuelles du département politique font aujourd'hui face à un certain nombre de difficultés et que si nous utilisions la technologie d'hibernation pour envoyer dans le futur nos meilleurs officiers, cela reviendrait à affaiblir la qualité du travail actuel? J'en suis conscient, amiral, ce n'est qu'une suggestion. C'est l'état-major qui tranchera. Chang Weizi se leva et alluma l'interrupteur, rendant toute sa clarté au bureau du quartier général. Non, camarade Beiyei, c'est ton travail à présent. Dès demain, tu vas tout laisser tomber pour évaluer la situation. Tes réflexions porteront principalement sur la spatiale, mais tu pourras aussi rendre visite à d'autres corps. Dès que possible, tu dresseras un premier rapport à la commission militaire centrale. Quand Taylor arriva, le soleil s'était déjà couché derrière la montagne. Dès qu'il sortit de la voiture, il se retrouva face à un paysage paradisiaque. La plus douce lumière du jour irisait les pics enneigés. Une prairie et une forêt bordaient un lac sur la rive duquel Luoji et sa famille profitaient de ce crépuscule hors du monde. Il remarqua d'abord la beauté de la mère, qui avait encore l'apparence d'une jeune fille et semblait plutôt être la sœur aînée du bébé. À cette distance, il ne le distinguait pas très bien, mais à mesure qu'il approchait, son regard se posa sur l'enfant. S'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux, il n'aurait jamais cru qu'il ait pu exister en ce monde un petit être aussi adorable. On aurait dit la cellule souche ou bien l'embryon de la beauté elle-même. La mère et l'enfant dessinaient sur une grande feuille blanche, tandis que Luoji les couvait des yeux avec fascination, comme cette nuit-là au musée du Louvre, quand il avait observé avec une certaine distance cette jeune femme, aujourd'hui devenue la mère de son enfant. En se rapprochant encore, Taylor put apercevoir dans ses yeux une béatitude infinie, inondant comme la lumière du couchant ce jardin d'Éden qui s'étendait entre les montagnes et le lac. Pour lui qui venait tout juste de débarquer du sinistre monde extérieur, le tableau qui se présentait à ses yeux avait quelque chose d'irréel. Il s'était marié deux fois. Maintenant célibataire, il n'attachait guère d'importance au bonheur familial dans sa poursuite de la gloire individuelle, mais en cet instant même, il eut pour la première fois l'impression d'avoir raté son existence. Ce ne fut que lorsque Taylor fut enfin très proche que Luoji, toujours en extase devant son épouse et sa fille, le remarqua. En raison du cloisonnement psychologique relatif à leur identité commune, jamais les quatre colmateurs n'avaient entretenu jusqu'à ce jour des rapports intimes. Mais ayant reçu plutôt un appel téléphonique de Taylor, Luoji ne fut pas surpris de sa visite, et il l'accueillit avec une courtoisie chaleureuse. « Madame, je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous déranger, » dit-il en s'inclinant légèrement devant Chuang Yan qui approchait avec son bébé dans les bras. « Bienvenue, monsieur Taylor. Nous avons rarement des visiteurs ici et nous sommes ravis de vous recevoir. » Son anglais était rudimentaire, mais la douceur de sa voix, presque enfantine, et son sourire diaphane comme de l'eau de source, caressèrent l'âme fatiguée de Taylor comme les deux mains d'un ange. Il eut envie de prendre l'enfant dans les bras, mais il avait peur de perdre le contrôle de ses émotions. Il se contenta de lâcher. Le simple fait de rencontrer deux anges tels que vous valait bien le voyage jusqu'ici. « Je vous laisse discuter, je vais m'occuper du dîner, » dit Chuang Yan en souriant aux deux hommes. « Non, non, ce n'est pas la peine, je souhaite simplement échanger quelques instants avec le docteur Luoji, ce ne sera pas long. » Chuang Yan insista chaleureusement pour que Taylor reste pour le repas, et elle partit avec l'enfant. Luoji invita Taylor à s'asseoir sur une chaise blanche installée sur la pelouse. Quand ce dernier prit place, ce fut comme si toutes les crampes de son corps avaient disparu, comme un voyageur atteignant enfin sa destination après un long périple. « Docteur, vous semblez avoir été coupé du monde durant ces dernières années, » commença Taylor. « C'est vrai, » répondit Luoji, toujours debout. Puis il secoua la main en désignant les environs. « Voici mon monde. Vous êtes un homme intelligent et, au moins d'un certain point de vue, plus responsable que nous. »« Qu'est-ce que vous entendez par là ?» l'interrogea Luoji avec un sourire amusé. « Au moins vous n'aurez pas gaspillé de ressources inutilement. Elle non plus ne regarde pas la télévision. Je veux parler de votre ange. Elle ? Je ne sais pas, ces derniers temps elle passe toute la journée avec notre fille. » Je n'ai pas l'impression qu'elle la regarde beaucoup. Alors vous devez certainement ignorer ce qui s'est passé dehors il y a seulement quelques jours. Quoi donc? Vous n'avez pas bonne mine, vous avez l'air épuisé. Oh, souhaitez-vous boire quelque chose? Peu importe, lâcha Taylor, le regard plongé dans les dernières lueurs du crépuscule sur la surface du lac. Il y a 4 jours, j'ai reçu la visite de mon fissureur. Luoji, qui était en train de verser du vin rouge dans son verre, suspendit son geste, puis, après un moment de silence, il dit « Sitôt ?» Taylor hocha lourdement la tête. « C'est aussi la première chose que je lui ai dite. »« Sitôt ?» s'étonna Taylor, s'efforçant de prendre une voix assurée qui donna au final une impression de fébrilité. « J'aurais aimé être plus rapide, mais je souhaitais d'abord récolter un maximum de preuves, ce qui explique mon retard. Je vous demande pardon, » s'excusa le fissureur. Il se tenait devant Taylor avec la déférence d'un domestique, et, comme un domestique, il s'adressait à lui avec délicatesse et modestie. Ses derniers mots étaient même porteurs d'une sollicitude sincère, c'étaient les excuses d'un bourreau à sa victime. S'ensuivit un silence suffocant, jusqu'à ce que Taylor rassemble enfin tout son courage et relève la tête vers le fissureur. Ce dernier lui demanda respectueusement « Puis-je continuer, monsieur ?» Taylor hocha la tête, mais il détourna son regard de son visiteur. Il s'assit sur le canapé, tâchant de se détendre du mieux qu'il pouvait. « Merci, monsieur. » Le fissureur s'inclina encore, son chapeau melon dans la main. « Permettez-moi avant tout de résumer en quelques mots votre stratégie, telle que vous l'avez exposée au monde extérieur. Utiliser un escadron de chasseurs spatiaux agiles, équipé de superbombes de plusieurs centaines de mégatonnes qui se livreraient à une attaque suicide sur la flotte trisolarienne. J'ai peut-être simplifié à l'excès, mais c'est à peu près cela, n'est-ce pas ?»«
Il n'y a absolument aucun intérêt à discuter de cela avec vous. » affirma Taylor, qui se demandait encore s'il fallait mettre un terme à cette conversation. Si c'était le cas, monsieur, je cesserais de parler et vous pourriez me faire arrêter, mais vous êtes certainement conscient que, quoi qu'il advienne de moi, votre stratégie réelle et l'ensemble des preuves qui m'ont permis de la mettre à jour feront demain, ou peut-être même ce soir, les unes des journaux du monde entier. Je mets en jeu le restant de ma vie en me présentant devant vous aujourd'hui. J'espère que vous saurez apprécier ce sacrifice à sa juste valeur. Continuez, lâcha Taylor à son fissureur en secouant la main. Je vous remercie, monsieur, j'en suis très honoré, je ne prendrai pas trop de votre temps.
Il s'inclina à nouveau. Sa déférence et son humilité, rares chez les hommes modernes, paraissaient s'être infiltrées dans son sang. Il en témoignait à chaque instant et, tout à la fois, c'était comme s'il serrait sans cesse un peu plus une corde de potence autour du cou du colmateur.
« Bien, monsieur, le bref descriptif que j'ai fait de votre stratégie est-il exact ?»
Taylor hocha la tête sans dire un mot.
« Au vu des avancées technologiques actuelles, l'arme potentiellement la plus destructrice que l'humanité pourrait créer dans le futur serait une super bombe nucléaire. Or, dans un contexte de guerre spatiale, ce genre de bombe doit être mise à feu à une distance extrêmement proche de sa cible, si elle veut avoir une chance de détruire les vaisseaux ennemis. Il est donc indéniable que le déploiement de chasseurs faciliterait la tâche. Faire appel à un essaim de moustiques qui frapperait l'ennemi dans des attaques suicides paraît incontestablement le meilleur choix. En cela, votre plan est juste et légitime. Après l'échec de toutes vos tentatives récentes, vos voyages au Japon, en Chine et même dans une grotte perdue de l'Afghanistan en quête de pilotes kamikazes à l'esprit de sacrifice, de même que votre projet de créer une flotte susceptible d'être pilotée par vous-même, sont également des approches justes et légitimes. Pendant un certain temps, vous m'avez vraiment posé des difficultés, monsieur. Ce fut une période délicate. J'ai même failli abandonner.
Taylor prit conscience que l'une de ses mains agrippait fermement le canapé. Il l'enleva aussitôt.
Mais vous m'avez vite donné une clé capable d'ouvrir votre énigme, une clé si commode que j'ai même douté pendant un temps de ma fortune. Vous savez bien sûr ce dont je parle. Le lancement des recherches sur des objets précis du système solaire. Europe, Cérès, les comètes. Qu'avaient-ils en commun?
L'eau.
Ces objets possèdent tous de l'eau, une grande quantité d'eau. La quantité d'eau sur Europe et Cérès est même plus importante que celle de tous les océans de la Terre réunis. Les gens atteints de la rage ont peur de l'eau. Rien qu'à entendre ce mot, certains sont pris de spasmes. Quelque chose me dit qu'à présent, vous aussi éprouvez ce sentiment, n'est-ce pas ?
Le fissureur s'approcha de Taylor et lui murmura à l'oreille. « Oh ! » Son souffle n'avait aucune chaleur. C'était comme le soupir d'un fantôme chargé de l'odeur de la tombe. Il continua à proférer ce mot à voix basse comme dans un songe. « Oh !» Taylor demeurait silencieux, le visage dur comme du marbre.
« Est-il encore nécessaire de continuer mon histoire ?»
susurra le fissureur en bombant le torse.
« Non !» répondit faiblement Taylor.
« Je vais poursuivre tout de même, » reprit le fissureur enjoué. Offrons le tableau le plus complet aux historiens, même si l'histoire ne survivra pas très longtemps. Bien entendu, c'est aussi l'occasion de faire mon rapport aux dieux. Tous n'ont pas notre intelligence, cette faculté de percevoir une totalité à travers un détail. Et en particulier les dieux qui ne savent pas forcément appréhender ces subtilités.
Il leva la main et sourit, comme s'il s'excusait auprès des trisolariens en train de l'écouter. L'expression de rigidité sur le visage de Taylor s'évanouit. Tous les os de son corps semblaient avoir fondu, il était affalé mollement sur le canapé, son corps et sa tête ne faisaient plus partie d'un tout. Il savait que tout était fini.
« Bien, laissons l'eau de côté, reparlons plutôt de votre essaim de moustique. Tout d'abord, les chasseurs ne devront pas frapper les envahisseurs trisolariens, mais la propre flotte de l'armée spatiale terrestre. Cette hypothèse peut paraître un peu osée, mais un faisceau de signes précurseurs me fait croire qu'elle est juste. Vous avez couru le monde pour essayer de créer une unité de pilotes kamikazes, mais vos efforts se sont révélés vains. Pourtant, vous l'aviez prévu depuis le début. Et grâce à cet échec, vous avez réussi à obtenir deux choses dont vous aviez besoin. Premièrement, un sentiment de déception envers l'humanité, ce qui a parfaitement marché. Et une deuxième chose dont nous reparlerons plus tard. Bien entendu, ce n'est qu'un début. Votre trahison future sera un long processus, mais vous avez le temps pour vous. Dans les années qui suivront, vous fabriquerez toute une chaîne d'événements successifs qui ajoutera des briques à la muraille que vous avez commencé à ériger entre la société humaine et vous. Petit à petit, votre déception augmentant, votre tristesse s'intensifiera et vous prendrez peu à peu vos distances avec le monde humain. Vous vous rapprocherez de Trisolaris et de l'organisation Terre Trisolaris. En réalité, ce travail est déjà entamé. Vous avez exprimé lors d'une audience du CDP votre bienveillance à l'égard de l'OTT. Ce n'était certes qu'un début, mais pas anodin. Vous avez réellement besoin d'eux, besoin qu'ils survivent encore longtemps, que les membres de l'OTT deviennent au moment de l'ultime bataille les pilotes de vos chasseurs spatiaux. C'est une affaire de temps et de patience, mais vous réussirez car l'OTT aussi aura besoin de vous, besoin de vos ressources et de votre soutien. Destiner les seins de moustique à l'OTT ne sera pas si difficile, car il leur suffira de garder ce secret pour le monde humain. Et si jamais cet accord était découvert, vous prétexterez simplement que cela fait partie de votre plan.
Taylor paraissait ne même plus écouter le récit du fissureur. Les yeux mi-clos, il était assis obliquement sur le canapé, le visage chiffonné, semblant presque se réjouir de pouvoir enfin prendre un peu de repos.
Bien, revenons à l'eau. Durant l'ultime bataille, l'essaim de moustique, contrôlé par l'OTT, lancera certainement une attaque brutale contre les forces terrestres, puis cherchera la protection de la flotte trisolarienne. Mais même après une telle action, les dieux n'accepteront pas forcément d'accueillir ces troupes rebelles. Elles auront besoin d'un don encore plus significatif. De quoi ont besoin les dieux que possède notre système? L'eau. Durant son long voyage de 4 siècles, la flotte trisolarienne utilisera certainement la majeure partie de ses ressources en eau. En approchant du système solaire, les trisolariens déshydratés à bord des vaisseaux devront ressusciter en se réhydratant. Mais l'eau utilisée pour ce processus de réhydratation étant absorbée par leur corps, ils préféreront largement avoir à disposition une eau fraîche et propre plutôt qu'une eau recyclée d'innombrables fois à bord des vaisseaux. L'essaim des moustiques offrira donc une énorme quantité d'eau aux dieux. Cette eau, ils la puiseront sur Europe, Cérès et sur quelques comètes. Ils formeront un iceberg de quelques dizaines de milliers de tonnes, sans doute. Je dois bien dire que je ne sais pas comment cette eau pourra être extraite et transportée. J'imagine que vous non plus, pas encore. Les moteurs du peloton de moustiques pourront tracter cet immense morceau de glace et l'apporteront en offrande aux dieux. À ce moment-là, l'escadron se tiendra probablement à une distance extrêmement proche de la flotte trisolarienne. Et c'est alors qu'entrera en jeu la seconde conséquence de votre échec à établir une unité de pilotes kamikazes, malgré tous vos efforts apparents. Votre requête de pouvoir contrôler seul l'essaim entier sera acceptée. Et lorsque les moustiques seront suffisamment proches des dieux, vous changerez le mode de pilotage et ordonnerez à votre millier de chasseurs porteurs de superbombes nucléaires de fondre sur leur cible. Ces armes de plusieurs centaines de mégatonnes exploseront alors à bout portant et anéantiront l'intégralité de la flotte divine. Un remarquable plan, vraiment. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Mais certaines de vos erreurs sont inexplicables. Pourquoi avez-vous été si pressé de lancer des recherches sur les objets célestes contenant de l'eau dans le système solaire? Les technologies qui permettraient l'extraction et le transport de grands volumes d'eau depuis des objets célestes lointains n'existent pas encore. Ces recherches qui impliquent un colossal travail d'ingénierie auraient pu attendre plusieurs décennies avant d'être engagées. Et même si c'était si urgent, pourquoi ne pas avoir intégré à ce programme d'autres objets n'ayant pas d'eau à leur surface, comme les satellites de Mars, par exemple? En agissant ainsi, vous n'auriez certainement pas pu m'empêcher de voir finalement clair dans votre jeu, mais la difficulté aurait été bien plus grande. Comment un stratège tel que vous a-t-il pu négliger ces détails? Mais d'un autre côté, je peux imaginer la pression qui pesait sur vos épaules.
Le fissureur posa délicatement la main sur l'épaule de Taylor, et ce dernier ressentit à nouveau la compassion d'un bourreau pour sa victime. Il éprouvait même quelque reconnaissance à son égard.
« Ne soyez pas trop dur envers vous-même, vous avez fait tout ce que vous pouviez, vraiment tout. Souhaitons que l'histoire se souvienne de vous. »
Le fissureur se releva. Son visage pâle et malade de tantôt avait repris des couleurs. Il tendit les deux mains.
« Bien, Monsieur Taylor, j'ai accompli ma mission. Vous pouvez me faire arrêter. »
Taylor, les yeux toujours clos, lâcha sans force. « Vous pouvez partir. »
Lorsque le fissureur ouvrit la porte, Taylor posa une dernière question avec une voix dure.
« Si ce que vous avez dit est vrai, qu'arrivera-t-il ? »
Le fissureur se retourna.
« Rien, Monsieur Taylor. Que j'ai ou non réussi à mettre à jour votre plan, les dieux n'en ont rien à faire. »